Il savait ce qu'était le sophisme pathétique, bien sûr, la nature faisant écho aux sentiments humains. Et c'était pour lui le tour de passe-passe facile des écrivains médiocres pour suggérer l'état d'âme de leurs personnages. Mais aujourd'hui, ça semblait coller. Le soleil éclatant du matin avait tout à la fois reflété et amplifié son sentiment d'allégresse. Mais à midi, ce soleil n'était plus qu'un cercle blafard derrière un voile de nuages. Et vers 3 heures de l'après-midi, alors que ses inquiétudes se multipliaient, le temps s'assombrit et il se mit à bruiner. Il conduisit la Biscayne jusqu'au centre commercial près de l'aéroport, sans cesse à l'affût de voitures de police. Quand l'une d'elles surgit en vrombissant derrière lui, sur Airline Boulevard, gyrophare bleu allumé, son estomac se glaça et son cœur sembla lui remonter dans la gorge. Lorsque le véhicule le doubla sans ralentir, il n'en éprouva aucun soulagement. Il alluma la radio et trouva un bulletin d'information sur Bamsan. La nouvelle du jour était une conférence de paix à Camp David entre Sadat et Begin. Ouais, comme si ça risquait d'arriver, pensa Maurice distraitement. Mais la suivante concernait le meurtre du célèbre écrivain américain John Rothstein. La police parlait d'un groupe de voleurs et affirmait disposer d'un certain nombre de pistes, probablement des conneries pour faire monter l'audience. Ou peut-être pas. Maurice pensait pas qu'on puisse remonter jusqu'à lui sur la base des témoignages des vieux zigs à moitié sourds qui traînaient au Yummy Diner de Talbot Corners, peu importe ce que croyait Andy. Mais il y avait autre chose qui l'inquiétait bien davantage. Lui, Freddy et Curtis avaient travaillé tous les trois pour Donahue Construction, une entreprise du bâtiment basée entre Danvers et North Beverly. Il y avait 2 équipes d'ouvriers. Et Maurice, pendant la majeure partie de ses 16 mois de chantier passés à transporter des planches et à enfoncer des clous, avait travaillé à Danvers pendant que Curtis et Freddy bossaient sur l'autre site, 8 kilomètres plus loin. Mais pendant un temps, ils avaient travaillé dans la même équipe, et même après, quand ils avaient de nouveau été séparés, ils réussissaient à se retrouver pour déjeuner. Beaucoup de monde était au courant. Il gara la Biscayne en compagnie d'environ 1 millier d'autres à la sortie J.C. Penney du centre commercial, essuya toutes les surfaces qu'il avait touchées et laissa la clé sur le contact. Il s'éloigna rapidement en remontant son col et en enfonçant sa casquette des Indians sur sa tête. À l'entrée principale du centre commercial, il attendit sur un banc jusqu'à ce qu'arrive un bus pour Northfield et il glissa ses 50 cents dans la machine. La pluie tombait plus fort et le bus avançait lentement. Mais il s'en foutait. Ça lui laissait du temps pour réfléchir. Andy était lâche et imbu de lui-même. Mais il avait raison sur un point. Maurice devait cacher les carnets. Et il devait le faire immédiatement. Peu importe à quel point il avait envie de les lire, à commencer par ce Jimmy Gold encore méconnu. Si les flics débarquaient et qu'il n'avait pas les carnets, il pourrait rien faire. Pas vrai? Tout ce qu'ils auraient, ce serait des suspicions. Pas vrai? Il n'y avait personne à la fenêtre chez les voisins, ce qui lui évita une autre conversation avec Madame Muller et peut-être d'avoir à expliquer pourquoi il avait vendu sa voiture. Il pleuvait à verse à présent, et c'était tant mieux. Il n'y aurait personne en balade dans la friche entre Sycamore et Birch, surtout après la tombée de la nuit. Il vida la malle, résistant au désir presque oppressant d'ouvrir les carnets. Il ne pouvait pas se le permettre, même s'il en crevait d'envie. Parce qu'une fois qu'il aurait commencé, il ne pourrait plus s'arrêter. Plus tard, pensa-t-il, tu vas devoir différer ta récompense, Maury. Bon conseil, mais dit par la voix de sa mère. Et ça relança son mal de tête. Au moins, il n'aurait pas à différer sa récompense trop longtemps. S'il n'avait toujours pas eu de visite de la police d'ici 3 semaines, 1 mois au plus, il pourrait se détendre et commencer ses investigations. Il doubla la malle avec du plastique pour que le contenu reste au sec et remit les carnets à l'intérieur, y compris celui qu'il avait pris pour le montrer à Andy. Il plaça les enveloppes d'argent par-dessus. Il ferma la malle, eut un moment d'hésitation et la rouvrit. Il repoussa le plastique et préleva $200 dans l'une des enveloppes. Sûrement qu'aucun flic trouverait ce montant excessif, même si on le fouillait. Il pourrait leur dire que c'était sa prime de départ. Le bruit de la pluie sur le toit du garage ne l'apaisait pas. Aux oreilles de Maurice, ça résonnait comme des doigts de squelette qui pianotaient, et ça aggravait sa migraine. Il se figeait dès qu'une voiture passait, attendant le moment où des phares et des lumières bleues clignotantes inonderaient l'allée de la maison. « Va te faire foutre, Andy Hallyday. T'avais pas à me fourrer ces crânes inutiles dans le crâne, » pensa-t-il. « Va te faire foutre, toi et tes copains homo qui te montent. » Sauf que ses craintes n'étaient peut-être pas si vaines. À mesure que l'après-midi tirait vers le crépuscule, l'idée que les flics puissent faire le rapprochement entre Freddy, Curtis et Maurice Bellamy devenait de plus en plus vraisemblable. Cette putain d'air de repos. Pourquoi il n'avait pas au moins traîné les corps dans les bois? Pas que ça aurait beaucoup ralenti le travail de la police. Une fois que quelqu'un se serait arrêté, aurait vu tout le sang et appelé le 911. Et les flics auraient des chiens. Et puis, dit-il à la malle, j'étais pressé. Hein, que j'étais pressé? Dans un coin du garage, il y avait encore le diable de son père, ainsi qu'une pioche rouillée et deux pelles, rouillées elles aussi. Maurice bascula la malle à la verticale sur le diable, la sangla bien serrée et regarda par la fenêtre du garage. Il faisait encore trop jour. Maintenant qu'il était sur le point de se débarrasser des carnets et de l'argent, temporairement, se rassura-t-il, temporairement, il était de plus en plus persuadé que les flics seraient là bientôt. Suppose que Mme Muller ait signalé un comportement suspect. Peu probable, vu qu'elle était aussi bornée qu'un champ de navet, mais qui pouvait vraiment savoir? Il se força à engloutir un autre plat surgelé, pensant que ça pourrait soulager son mal de tête. Mais à la place, celui-ci empira. Il fouilla dans le placard à pharmacie de sa mère, à la recherche d'aspirine ou d'Advil, et y trouva que dalle. « Va te faire foutre, maman, » pensa-t-il. « Franchement, sincèrement, va te faire foutre !» Il visualisa le sourire d'Anita Bellamy. Mince comme un crochet, ce sourire. Il faisait encore jour à 7 heures. Maudite heure d'été. Quel était le génie qui avait inventé ça? Mais les lumières étaient toujours éteintes chez les voisins. Bien. Sauf que Maurice savait que les Muller pouvaient rentrer à tout moment. Et puis, il était trop nerveux pour attendre plus longtemps. Il farfouilla dans le placard de l'entrée jusqu'à ce qu'il trouve un poncho. Il sortit par la petite porte du garage et traîna le diable à travers le jardin de derrière. L'herbe était mouillée, le sol en dessous spongieux et la progression difficile. Le sentier qu'il avait emprunté tant de fois quand il était gosse, le plus souvent pour aller au centre aéré de Birch Street, était abrité par des arbres et il put progresser plus facilement. Le temps qu'il arrive au petit ruisseau qui traversait en diagonale cette parcelle de friche aussi vaste qu'un pâté de maison, il faisait nuit noire. Il avait apporté une lampe de poche, et il l'utilisa par à-coup pour repérer une cachette potentielle dans la berge du ruisseau, à bonne distance du sentier. La terre était molle, et il lui fut facile de creuser jusqu'aux racines enchevêtrées d'un arbre surplombant le ruisseau. Il pensa changer d'emplacement, mais le trou était déjà presque assez grand pour la malle, et plutôt crevé que tout recommencer. Surtout que c'était juste une précaution temporaire. Il posa la lampe de poche dans le trou, la calant contre une pierre pour que le rayon lumineux éclaire les racines et entreprit de les trancher avec la pioche. Il glissa la malle dans le trou et se hâta de la recouvrir de terre qu'il tassa bien avec le plat de la pelle pour finir. Il pensait que ça suffirait. La berge n'était pas tellement herbeuse et ce carré de terre retourné ne se remarquerait pas. L'important, c'était qu'elle soit hors de la maison, pas vrai? Pas vrai? Alors qu'il remontait le diable le long du sentier, il n'éprouvait aucun soulagement. Rien ne se déroulait comme prévu. Rien. C'était comme si un destin funeste s'était interposé entre lui et les carnets. Exactement comme le destin s'était interposé entre Roméo et Juliette. Cette comparaison semblait à la fois ridicule et parfaitement adaptée. Oui, il était amoureux. Ce maudit Rothstein l'avait trompé avec le coureur ralenti. Mais ça ne changeait rien au fait. Son amour était sincère. De retour à la maison, il fila sous la douche comme le ferait un garçon nommé Pete Saubers de nombreuses années plus tard, dans cette même salle de bain, après avoir rendu visite à cette même berge et à ce même arbre surplombant le ruisseau. Il y resta jusqu'à avoir les doigts tout fripés et qu'il n'y ait plus d'eau chaude. Puis il se sécha et enfila des habits propres qu'il prit dans le placard de sa chambre. Il lui paraissait enfantin et passé de mode, mais il lui allait toujours, plus ou moins. Il mit son jean et son sweat maculé de terre à la machine, geste que reproduirait également Pete Saubers des années plus tard. Maurice alluma la télé, s'installa dans le vieux fauteuil de son père. Sa mère disait le garder en guise de rappel, des fois qu'elle soit tentée de refaire la même grossière erreur, et absorba la dose classique d'inanité dopée à la pub. Il songea que n'importe laquelle de ces pubs, flacon de laxatif bondissant, maman se pomponnant, hamburger chantant, aurait pu être écrite par Jimmy Gold, et son mal de tête revint en force. Il décida de descendre aux O'Neill's s'acheter de l'anacine, peut-être même se prendre une bière ou deux. Ça pourrait pas lui faire de mal. C'était l'alcool fort qui lui causait des problèmes. Il avait bien appris sa leçon. Il trouva l'anacine, mais l'idée de boire de la bière dans une maison remplie de livres qu'il n'avait pas envie de lire et d'une télé qu'il n'avait pas envie de regarder le déprimait pire qu'avant. Surtout quand ce qu'il voulait vraiment lire était si vertigineusement proche. Maurice buvait rarement dans les bars. Mais tout d'un coup, il eut le sentiment que s'il ne sortait pas se trouver un peu de compagnie et écouter de la musique forte et rapide, il deviendrait complètement dingue. Quelque part dans cette nuit pluvieuse, il était sûr qu'une jeune fille avait envie de danser. Il paya son aspirine et presque nonchalamment demanda au jeune gars à la caisse s'il connaissait un bar à concert où il pourrait se rendre en bus. Le jeune gars lui répondit que oui.